Nous entrons sans tarder en ce merveilleux nouveau jour dans notre thématique qui, j'espère, vous intéresse hautement. Certains aiment ce thème et disent « Seigneur, viens vite, je ne vais pas bien, le monde va mal, j'ai trop de problèmes, sur tous les fronts je dois me battre, viens vite Seigneur pour que tout ça s'arrête. » Alors c'est pas mauvais de prier « Seigneur, viens vite ». Mais ce n'est pas une raison pour se déresponsabiliser et laisser tomber les bras. Ce matin, Église du Seigneur, relève tes bras, relève les genoux qui chancellent, redresse ta tête. Vis avec force et avec courage dans un monde difficile. D'autres disent, Seigneur, non, reviens le plus tard possible. Je m'amuse trop bien ici. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de s'intéresser à ce thème, de se déconnecter des choses de la terre et de commencer à rêver des choses célestes? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets plus importants comme être heureux sur la terre, recevoir les bénédictions du Seigneur, les 10 clés pour un bonheur parfait, les 15 étapes pour un mariage heureux, enfin je ne sais pas. Cependant, nous vivons dans une actualité brûlante avec un mouvement d'accélération des choses. Beaucoup de prophéties se réalisent. Il y a un grand enjeu et un grand combat spirituel actuel, spécialement au Moyen-Orient. Et tout le monde se rend compte, chrétiens et non-chrétiens. Mais nous nous intéressons à ce thème tout particulièrement parce que, à cause des nombreux textes sur le retour de Jésus, à cause des nombreux textes, et rien que par amour pour la parole, nous allons étudier cela. Par amour pour la parole, eh bien, nous sommes conduits naturellement à parler de cela. Il y a quelque chose de fascinant, il y a quelque chose de merveilleux, de mystérieux aussi, car le retour de Jésus, c'est vraiment l'espérance du chrétien. Ça a été l'espérance de tous les chrétiens qui sont morts dans l'espérance de savoir qu'un jour, quand ce que Jésus reviendra, ils ressusciteront en Christ et ils vont se lever, sortir de leur tombe. Et Jésus dit, lorsque toutes ces choses vont arriver, les choses où le monde va mal, de plus en plus mal, redressez vos têtes car votre délivrance approche. Et face à ce message, mes amis, ce n'est pas seulement de l'enseignement que j'aimerais faire ce matin, mais j'aimerais confier ce message entre les mains du Saint-Esprit afin que quelque chose se mette en route dans notre cœur et que nous puissions voir les multitudes autour de nous qui ne connaissent pas encore Jésus et qui ont besoin, eux aussi, de vivre l'expérience de l'enlèvement et de vivre la parousie de Christ qui revient en étant prêt, et non pas de ceux qui ne se soucient de rien et qui seront laissés. Nous avons besoin d'être motivés pour l'évangélisation et pour le témoignage permanent de toutes sortes de manières. Et merci à ceux qui le font régulièrement. Merci à ceux qui vont samedi dans les rues aussi. Vous êtes une bonne équipe et je me réjouis de vous voir. Ce message doit nous pousser à une préparation personnelle. Qu'est-ce qui devrait changer dans ma vie suite à cela? Les événements de la fin des temps ne sont pas si faciles à mettre en relation les unes avec les autres. Il faut le dire. Il faut mettre ensemble des textes de Daniel, de l'Apocalypse, de Joël, de Zacharie, Matthieu 24, Luc 21, Marc 13, 2 Thessaloniciens, 2 Pierre. Tous ces textes doivent quelque part trouver leur assemblage et il faut le dire, ce n'est pas simple quand on ne prend pas des heures pour étudier tout cela, de mettre tout ça ensemble. Et puis encore, à un moment donné, on est quand même un peu perdu encore, il faut le dire. Le retour de Jésus-Christ se fera en deux temps. Le retour de Jésus-Christ se fera en deux temps. D'abord, il se fera en secret, comme un voleur, de manière totalement imprévisible, dans les airs. À ce moment, les morts en Christ ressusciteront d'abord, et nous les vivons, nous serons changés en un instant, et nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ensuite, la deuxième phase du retour de Jésus, c'est quand il viendra visiblement pour tous. Il viendra comme un éclair, il viendra, comme on l'a dit, sur les nuées, dans les nuées, avec les siens qui ont été auparavant enlevés, transformés, et il viendra pour juger, pour établir son royaume, pour affirmer son règne et pour instaurer le millénium afin de régner sur la terre. Le jour du Seigneur, ainsi, est appelé jour de l'Éternel. Le retour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de l'Éternel. Et qui a un double sens. Premièrement, c'est un jour J, c'est un jour où, d'une manière unique, instantanée, à un moment donné, le Seigneur reviendra. Mais le jour de l'Éternel, c'est aussi une période de temps que la Bible appelle la grande tribulation de 7 ans et qui va être le jour de son jugement et de sa colère contre tous les hommes qui continuent à s'opposer à Dieu et le Seigneur va juger leurs péchés et leurs actions à ce moment-là. Le temps de la patience de Dieu sera terminé au jour de l'Éternel, qui sera justement ce jour de jugement. Donc c'est un jour unique de son retour, mais aussi une période de temps. 3 textes sur l'enlèvement de l'Église, nous les avons cités la dernière fois, Jean 14, 1 Thessaloniciens 4 et 1 Corinthiens 15. Dans ces 3 textes, nous serons accueillis par le Seigneur Jean 14, je ne reviens pas là-dessus, ça a été tout le développement de dimanche passé. 1 Thessaloniciens 4, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur et 1 Corinthiens 15 nous dit que nous serons changés en un instant. Il nous est dit que l'enlèvement de l'Église, c'est un mystère. C'est un mystère révélé à Paul, car l'Ancien Testament n'en parle pas. L'Épître aux Thessaloniciens, qui est adressée à des chrétiens qui souffraient déjà pour leur foi, nous sommes dans les années 50-60 après Jésus, et ils s'inquiétaient de ce qui allait se passer avec leur bien-aimé qui était décédé et qui n'avait pas vu le retour de Jésus. Et Paul avait été dans cette église seulement un petit moment, et son enseignement n'a pas été complet. C'est pourquoi il écrit 2 lettres à leur intention. Ces chrétiens pensaient que les persécutions étaient déjà finalement la grande tribulation, et ils se demandaient si Jésus n'était pas déjà revenu. Et c'est pourquoi Paul va leur dire, non, Jésus n'est pas encore revenu, ne commencez pas à mélanger tout et à croire des faux enseignements. Il veut corriger donc cette idée qu'avaient les Thessaloniciens, que le retour du Seigneur était déjà là. Ce n'était pas encore la grande tribulation, même s'ils souffraient beaucoup. L'enlèvement est décrit dans 1 Thessaloniciens 4, il vient dans les airs, les morts en Christ ressuscitent d'abord, ceux qui sont vivants sont transformés en un instant et ils partent en même temps à la rencontre du Seigneur pour être pour toujours avec lui. Imaginons ce que peut provoquer un enlèvement à ce moment-là, quand subitement des millions de personnes manquent à l'appel. Il y a une confusion générale, on va ouvrir la Bible, on va chercher, on va dire « ces chrétiens avaient raison, ce qu'ils ont dit se passe ». Ils vont peut-être se précipiter dans les églises qui seront peut-être pleines pour les unes ou vides pour d'autres. Et ils vont chercher secours, je ne sais pas tout ce qui va se passer, la Bible n'en parle pas. La Bible dit encore que prophétiquement, dans les 7 lettres aux églises, dans la lettre à l'église de Philadelphie, on peut dire que c'est l'église qui sera enlevée, tandis que la lettre suivante, qui est l'église à Laodicée, c'est la lettre à l'église qui a besoin d'être transformée et qui va rester et passera la grande tribulation. L'église de Laodicée, lorsque vous la lirez, chapitre 3 d'Apocalypse, c'est une église qui a négligé et perdu beaucoup de choses. Et le Seigneur lui dit, je suis à la porte, je ne suis plus dedans. C'est l'église où le Seigneur n'est pas dedans, il se passe plein de choses, mais Jésus n'est pas dedans. Elle est tiède, elle est autosuffisante, elle croit qu'elle n'a besoin de rien, qu'elle connaît tout. En réalité, elle a perdu la sanctification, elle a perdu l'authenticité, elle a perdu sa vision, elle a perdu la foi aussi. Et le Seigneur parle aussi à cette église-là. Il ne dit pas « vous ne valez rien et vous êtes de toute façon perdus ». Il vient vers cette église-là pour qu'elle soit ramenée à la repentance et au retour à Jésus. Le Seigneur appelle tout être humain à revenir jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment, que ce soit avant la tribulation ou après, ou pendant. Le Seigneur appelle chacun toujours à revenir vers lui. De tout temps, les types d'antéchrist sont venus pour persécuter les chrétiens et les juifs. Vous remarquerez que les deux vont ensemble. Le peuple élu de tout temps par Abraham, qui sont les Juifs, et le peuple élu spirituel, qui est l'Église, ces deux sont la cible de l'Antichrist. Et de tous les antichrists qui, en forme petite et moindre, sont apparus au cours des siècles, et inutile de les nommer, eh bien, ils se sont acharnés sur les chrétiens et sur les juifs. Et je pense que quand on regarde aujourd'hui au Moyen-Orient, cet enjeu qui est particulier et que le monde suit avec crainte et avec une attention inquiète, avec l'établissement de cet État islamique, où les chrétiens sont à nouveau, de manière si brutale, comme dans les arènes de Rome autrefois, mis à mort, persécutés dans les détresses, où des dizaines de milliers souffrent pour leur foi, ne peut-on pas dire que nous sommes dans ces éléments de la fin qui nous parlent et qui nous disent « Seigneur, viens, Seigneur Jésus » et qui nous disent aussi « Seigneur, fais justice, Seigneur, arrête cela » et j'aimerais vous dire que le Seigneur viendra au bon moment, alléluia. Il viendra au bon moment. Et lorsqu'il viendra, parce qu'il dit « viens bientôt », il y a aussi deux sens à cela. D'une part, vous trouvez ce texte pas mal de l'Apocalypse, au dernier chapitre en particulier. Le mot « bientôt » veut dire « il vient dans un avenir proche, sous peu, dans peu de temps ». Et cette prière suscite une impatience. Mais le deuxième sens de « bientôt », c'est « quand il vient, tout ira très vite ». Tout ira très vite. Ce sera rapide et le temps de se préparer, de tout régler, sera trop tard. C'est pourquoi le bientôt doit résonner aujourd'hui dans notre cœur pour que nous puissions nous préparer. En repoussant les choses que Dieu nous demande de faire et d'entreprendre ou de régler aujourd'hui, ne devraient pas être postposées à demain, car lorsque le Seigneur apparaîtra, les choses iront vite. J'aimerais ce matin accentuer deux choses. Tout d'abord, ces deux points, pourquoi le retour de Jésus sur terre est nécessaire et deuxièmement, pourquoi l'enlèvement de l'Église est nécessaire. Ce seront les deux points que je vais aborder et ensuite nous continuerons sur d'autres points la prochaine fois. Le retour de Jésus sur terre est nécessaire. Comme j'ai dit, le retour se fait en deux temps, l'enlèvement et puis le retour visible. Parlons d'abord du retour de Jésus dont l'Ancien Testament parle beaucoup, le retour et la venue du Messie. Pour ces quatre points que je vais courtement développer. Premièrement, parce que toutes les promesses doivent s'accomplir. Deuxièmement, pour que le plan de Dieu aille vers une conclusion, vers une finalité. Et puis, Jésus doit revenir parce qu'il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne. Et puis, il est aussi question de la rédemption de notre corps. Regardons ces choses afin d'être motivés, afin d'être encouragés, afin d'être éclairé sur le projet extraordinaire, glorieux et très vaste du plan de Dieu. Premièrement, Jésus doit revenir car toutes les promesses doivent s'accomplir. Il est dit, je vous dis en vérité, dit Jésus, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Toutes les promesses de Dieu doivent s'accomplir. Toute la Bible va s'accomplir. Et puis il est dit aussi que Dieu a la puissance pour accomplir toutes choses. Non seulement il a l'intention, non seulement ça a été écrit, inspiré par les écrivains sacrés, mais il a l'autorité et la puissance pour accomplir toutes choses jusqu'au moindre détail. Et puisque toutes ces prophéties se sont déjà accomplies dans le passé, par exemple lors de la mort de Jésus, plus de 25 prophéties se sont accomplies lorsque Jésus est mort sur la croix. Et puisque toutes ces choses se sont accomplies à la lettre, toutes les autres choses à venir vont aussi s'accomplir. Croyons-le. Ne doutons pas que le Seigneur va s'arrêter à mi-chemin, mais que toutes les promesses vont s'accomplir, car il a pleinement la puissance pour les accomplir. Romains 4, 21. Deuxièmement, le plan de Dieu va vers une finalité. Non, l'histoire du monde n'est pas un éternel recommencement. Nous n'avons pas une vision cyclique du monde. Donc pas une vision d'un monde qui tourne comme une roue où tout est à refaire. C'est pourquoi nous ne croyons pas à la réincarnation, parce que ça n'aurait pas de sens. C'est dans une vision cyclique qu'il y a la réincarnation dans la pensée de certains peuples. Mais le plan de Dieu est linéaire, il va avec un crescendo vers la fin, vers un but ultime que le Seigneur a défini. Le plan de rédemption doit être complet. Il doit être complet. Dieu est un Dieu complet, parfait, total. Le plan de Dieu pour Israël n'est pas encore terminé, nous en sommes convaincus. Il y a encore des étapes à vivre. La dernière semaine des 70 semaines de Daniel concernera Israël. Les 69 semaines sont terminées. On ne va pas entrer dans le détail dans tout cela, ce serait trop long, il faudrait une étude complète pour cela. Entre la 69e et la 70e, il y a la période de l'Église. Et là, à partir de l'enlèvement de l'Église, il y aura la dernière semaine du livre de Daniel, la 70e semaine, qui concerne le plan de Dieu pour Israël, qui sera rétabli, mais qui souffrira beaucoup. Le plan de Dieu est incomplet sans le retour de Jésus. Il faut qu'il règne, il faut que toute chose soit rétablie. Il faut qu'il règne. J'aime ce texte où il nous est dit dans 1 Corinthiens 15, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » 1 Corinthiens 15, 25. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le Seigneur laisse une chance à tout être humain et à tous les peuples. Chacun a sa chance et son temps. Le meilleur a son temps et le pire a son temps. C'est pourquoi des fois nous sommes étonnés de voir des dictateurs terribles avoir des règnes si longs. Et on se demande pourquoi Dieu autorise des gens si méchants, si mauvais, de rester si longtemps sur le trône et à la gouvernance des peuples. Déjà dans l'Ancien Testament, lorsque vous voyez le livre des rois, vous verrez également ce même questionnement. Comment cela se fait-il qu'un Manassé, un des pires rois, ait eu le règne le plus long? Il a régné 55 ans, alors que d'autres rois qui étaient bons ont eu beaucoup moins. Pourquoi des témoins comme Étienne ont-ils été lapidés alors qu'ils avaient un ministère puissant, un ministère dont l'Église avait tellement besoin? Pourquoi certains jeunes meurent si tôt alors qu'ils avaient une vie prometteuse, qu'ils avaient tant de choses à apporter aux autres? Et pourquoi certains qui font tellement de mal restent si longtemps et meurent tranquillement dans leur lit, dans leur vieillesse? Ce sont des questions que beaucoup se posent. Dieu donne son temps à chacun, bon ou mauvais. Chacun a son temps. Et tous les royaumes vont passer les uns après les autres. La statue de Daniel nous le montre aussi. Mais finalement, quand tout le monde aura eu sa chance et aura eu le temps de permettre et d'avoir l'occasion de ramener la paix sur terre et de faire du bien, à la fin viendra le règne de Christ. Pour montrer que lui peut ce que tous les autres n'ont pas pu. Que lui réussira là où les autres ont fait faillite. Dieu donne la chance à chacun. Et la Bible dit qu'il faut qu'il règne. Ce n'est pas possible que le règne de Christ ne soit que le règne intérieur des cœurs. Il règne dans nos cœurs, il règne au milieu de nous. J'espère qu'il règne dans vos familles, il règne sur tout ce que vous entreprenez. Il faut qu'il règne. Mais Jésus doit régner visiblement devant tous. Il faut que son règne éclate devant ses ennemis. Il faut que ses ennemis soient sous ses pieds et reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Il faut, et ce faut, je l'ai mis en majuscule, il faut qu'il règne. C'est absolument essentiel. Mais nous devons savoir que à l'arrivée de ce règne, le combat entre la lumière et les ténèbres, entre la puissance de Dieu et Satan, va devenir de plus en plus aiguë et forte, intense, brutale, mauvaise, qui fera trembler le monde entier et la terre et les astres et l'univers vont être impliqués dans ce combat incroyable parce que Satan refusera de lâcher son pouvoir. Il nous est bien dit que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19 nous le dit. Et Satan refusera de lâcher. Il voudra tenir son règne sur la terre. Et ce combat entre les anges de Dieu et les anges du mal vont s'intensifier. Il veut empêcher la venue du Messie sur la terre. C'est pourquoi il combattra de toutes ses forces, car il sait qu'il a peu de temps. C'est pourquoi l'Église, et nous en parlerons la prochaine fois, l'Église va prier, et sa prière est puissante, et sa prière met en route des anges qui combattent. Et la prière de l'Église dégage, fait dégager un espace de lumière dans un monde ténébreux pour que des âmes soient sauvées. Voilà pourquoi l'Église est une Église qui doit prier et qui prie. C'est pourquoi nous encourageons continuellement la vie de prière. Mais le combat sera intense. Imaginez-vous le moment où l'Église est enlevée, où toute cette force de frappe spirituelle contre le mal va stopper en un instant. Il n'y aura plus rien qui va l'arrêter. À ce moment-là, on imagine aisément que la grande tribulation va s'amorcer. J'en parlerai la prochaine fois. Et plusieurs textes de l'Ancien Testament le décrivent, que la venue de l'ère messianique, du millénium, sera précédée par un temps de douleur qui est appelé aussi les douleurs de l'enfantement, qui sont comparées aux douleurs de l'enfantement. Lorsque l'enfant arrive, précédemment, il y a les contractions qui vont se rapprocher, qui vont devenir douloureuses de plus en plus, avant l'arrivée de la vie nouvelle et avant l'arrivée de l'ère nouvelle qui sera l'ère messianique. Il y aura ces contractions douloureuses, il y aura ces douleurs de l'enfantement dont il est souvent question dans les prophètes. Et voilà pourquoi ce règne viendra coûte que coûte, selon la promesse du Seigneur, mais cela se fera dans la douleur. Dernier point, car la rédemption des corps doit se faire aussi. Regardez les textes dans Romains 8, 22. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, attendons la rédemption du corps. Mes amis, cette promesse montre que le plan de Dieu est parfait. Nous ne sommes pas seulement c'est pas seulement notre âme qui est sauvée. Elle est sauvée, notre âme. Est-ce que vous êtes d'accord? J'espère. Notre âme est sauvée. Notre esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu, mais notre corps est encore bien sur la terre et il doit se battre aussi avec plein de choses. Et Dieu guérit, il veut aussi instaurer son règne dans nos corps, c'est pourquoi nous prions avec foi pour la guérison des malades. Mais un jour ou l'autre, nous mourrons quand même. À moins de faire partie de la génération de l'enlèvement, mais c'est tout le monde le dit, tout le monde le souhaite. Cependant, le plan de Dieu est complet lorsque notre corps va être transformé, va intégrer l'âme qui sera auprès du Seigneur quand nous mourrons. Lorsque le nouveau corps va intégrer l'âme vivante, alors nous servirons le Seigneur pour l'éternité. Pas avant, parce qu'il faut que le corps nouveau soit fonctionnel, soit opérationnel. Avant, il faut que le Seigneur l'ait créé tout d'abord. C'est pourquoi le plan de Dieu est merveilleux, il est complet. Il y a la rédemption de notre corps. Il faut que le corps corruptible, hélas, même les plus beaux parmi nous, les plus jeunes et les plus forts, ont un corps corruptible. Il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité, que le corps mortel revête l'immortalité, dit l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens. Donc nous nous réjouissons du retour du Seigneur parce que toutes les promesses doivent s'accomplir. Le plan de Dieu va vers un but, il faut qu'il règne et la rédemption des corps est à venir. Maintenant, j'aimerais parler avec vous, pourquoi l'enlèvement de l'Église qui précède le retour visible de Jésus est nécessaire. Également ici, 4 points. Et cela va nous enseigner, nous donner la lumière pour nous préparer à sa venue. Premièrement, car Jésus nous veut avec lui. Deuxièmement, il faut que Jésus nous délivrera de la colère à venir. Troisièmement, Jésus présentera son épouse préparée par l'Esprit devant le Père pour le jour des noces. Et puis, le dernier point, Jésus veut nous récompenser. Alléluia. Ce sont des points magnifiques. Ce sont des découvertes scripturaires extraordinaires. Rappelez-vous les 3 textes de l'enlèvement. Le premier était Jean 14, où Jésus va parler avec un ton de consolation, d'encouragement, comme le bon berger parle à ses brebis. Il va dire « Je m'en vais ». Il dira ça autour de la table de la Sainte Cène, autour de cette table même où Judas va quitter, le trahissant, autour de cette table même où il savait que Pierre allait le renier, autour de cette table où il allait instituer ce mémorial de la Sainte Cène. Il va dire « Je m'en vais et je vais vous préparer une place ». Et lorsque j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Seigneur, nous veut cette connexion. Il faut que le corps de Christ, nous sommes le corps de Christ, mais il faut que la tête soit connectée au corps. Spirituellement, nous le sommes. Mais il faut que la tête soit connectée au corps d'une manière plus forte encore et plus réelle encore, plus complète encore. Et c'est pourquoi Jésus nous veut avec lui. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Jésus nous veut avec lui. Il languit après chacun de nous. Il attend lui aussi ce jour. Il sait ce qu'il a souffert à la croix. Il sait le plan de rédemption qui est encore à venir. Et il attend lui aussi ce jour. Il attend aussi le son de la trompette pour descendre. Il attend. Et il voudrait trouver dans les membres de son corps la même attente. La même attente. Il voudrait que chacun de nous, nous soyons dans ce désir ardent et brûlant de cette attente de son retour, car lui l'attend. Nous avons déjà reçu quelque chose qui s'appelle les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, c'est-à-dire la garantie que nous serons bientôt connectés. Le Saint-Esprit a déjà mis en nous sa présence, sa puissance, sa grâce. Il nous a déjà donné ce don merveilleux parce que le reste va venir. Les arts, ça veut dire le reste va suivre. Jésus nous veut avec lui. Jésus nous délivrera de la colère à venir. Il y a plusieurs textes qui montrent que le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, est un jour de colère et de jugement qui durera 7 ans. Et le Seigneur parle dans l'Ancien Testament de cette colère redoutable. Et nous ne devons jamais minimiser la colère de Dieu en disant « Mais Dieu est amour, il ne peut pas se mettre en colère. Dieu est trop bon, il ne permettra jamais qu'il y ait des gens qu'il aime, qu'il a créé, qu'ils soient perdus. Il ne permettra jamais ça. » Ne nous laissons pas égarer par des doctrines sentimentales, émotionnelles, croyant que l'amour de Dieu va finalement faire que tout le monde sera sauvé. Ça, ce n'est pas scripturaire. Je voudrais bien le croire, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que la colère de Dieu est à prendre très au sérieux. Bien sûr, elle viendra tout à la fin, nous l'avons dit, parce que Dieu donne une chance à chacun et Dieu est patient. Mais il ne faut pas provoquer la patience de Dieu. Il ne faut pas jouer avec la patience de Dieu. Parce que sa colère sera vraiment, vraiment terrible. Au jour de Noé, au jour de Sodome et Gomorre, il y avait déjà l'expression d'un jugement quasi instantané qui est arrivé et dont ces gens avaient été prévenus. Nous sommes aussi prévenus et nous devons prévenir les autres. Mais voici ce qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens 1:10. Nous attendons des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Qui nous délivre de la cololère à venir. Toujours dans 1 Thessaloniciens, je vous ai dit que cette lettre parle particulièrement du retour de Jésus. 1 Thessaloniciens 5:9. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, sous-entendu la colère de Dieu à la fin des temps, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu désire nous sauver comme il a sauvé Noé au déluge. Dieu désire nous sauver comme il a sauvé Lot lors du jugement de Sodome et Gomorre. Il les a fait sortir d'un monde condamné. De la même manière, Dieu veut faire sortir l'Église d'un monde condamné. Ce monde ne sera pas désintégré, la terre sera purifiée, restaurée. Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à la gloire qui sera révélée pour nous. Et puis un texte important également. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'Église de Philadelphie, dans les 7 lettres, prophétiquement, si on les prend dans l'âge de l'Église, l'histoire de l'Église, depuis le 1er siècle jusqu'à la fin, nous avons vu que l'Église de Philadelphie, c'est l'Église qui sera enlevée, parce qu'elle n'a aucun blâme, elle est vraiment prête à être enlevée. Le Seigneur va lui dire « Je viens bientôt, retiens ce que tu as ». Et le Seigneur va dire à l'Église de Philadelphie, chapitre 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Une petite précision qui s'inscrit dans le grec, dans la langue originale, et qui sort moins en français. Mais voici ce qui est écrit. « Je te garderai aussi hors de l'heure de l'épreuve qui viendra. » Je te garderai hors de l'épreuve. Ek, hors de. Cela veut dire, c'est en concordance avec les textes précédents de 1 Thessaloniciens 5, que le Seigneur nous prendra avant le jour de la colère. Puisque nous avons gardé sa parole, il nous gardera aussi éloignés de l'heure de la colère qui viendra. C'est pourquoi, avec beaucoup de commentateurs, nous pensons que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation des 7 ans, puisque ce temps-là sera le temps de la colère. Cependant, on peut nuancer, et je ne vais pas entrer en détail trop là-dedans, je vous laisse aussi fouiller un peu vous-même. Certains pensent qu'au chapitre 4 de l'Apocalypse, l'Église est enlevée. Hors de la colère de Dieu, loin de la colère de Dieu, évitant la colère de Dieu. Certains pensent que c'est au milieu de la grande tribulation que l'Église sera enlevée. Je préférerais que ce soit avant. Je ne sais pas vous, mais personne ne veut souffrir, personne ne veut passer des temps difficiles. Mais n'oublions pas, pensons à tous les chrétiens qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vivent déjà des choses qui ressemblent à la grande tribulation. Grande tribulation, c'est un terme particulier pour Israël. C'est concentré sur le Moyen-Orient, sur Israël, mais qui touche le monde entier. Pourquoi au milieu? Lorsque vous lirez dans l'Apocalypse chapitre 10 et 11, vous verrez que ça tombe à la 7e trompette et la dernière trompette. Et puisque le Seigneur reviendra enlever son Église à la dernière trompette, on peut aussi éventuellement penser que c'est à ce moment-là que l'Église sera enlevée et qu'avant la deuxième partie des 7 ans va être vraiment la partie la plus intense de la grande tribulation où la bête, l'antichrist et le dragon vont vraiment se déchaîner pour faire le mal avant l'arrivée du Seigneur. Soit au début des 7 ans, soit au milieu des 7 ans, nous ne voulons pas forcément nous arrêter à cela. Rappelons-nous simplement que le Seigneur ne nous a pas destinés à sa colère. Nous sommes destinés à la gloire et non pas à sa colère. Ça ne veut pas dire que nous ne vivrons pas de tribulation ou de souffrance, mais nous ne sommes pas destinés à sa colère. Et puis maintenant, je termine ce message de ce matin avec les deux dernières choses qui sont vraiment extraordinaires. Le Seigneur veut donner à son Église, à son Église universelle, et je vous dirai aussi la prochaine fois qui c'est cette Église universelle et qui fera partie des gens enlevés. Le Seigneur a réservé 2 choses particulières, rien que pour ceux-là, rien que pour les élus, rien que pour les enlevés, rien que pour les siens qui lui appartiennent, qui l'attendent et qui l'aiment. Il va préparer 2 choses. La première, il veut présenter à son Père son épouse pour le jour des noces. C'est pourquoi nous croyons que juste après l'enlèvement se préparent les noces de l'agneau. Pendant que sur terre se déchaîne la grande tribulation, là-haut se préparent les noces de l'agneau. Peut-être que les anges sont déjà en train de broder sur les nappes votre nom à votre place. Persévérez, restez fermes afin qu'ils ne doivent pas enlever leur fil et mettre un autre nom à votre place. Mais la table, la grande table des noces se prépare et la fête, elle n'est pas descriptible avec des mots humains. L'épouse du Seigneur a une destinée autre que la destinée du monde. Car vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Pourquoi relevons nos têtes? Le meilleur nous attend. Nous devons nous réjouir de ces choses et pas dire « c'est tellement vague, c'est tellement loin, c'est tellement... je suis tellement bien ici, je n'ai pas besoin de ça. » Frères et sœurs, où est notre cœur aujourd'hui? C'est ça toute la raison d'être de ce message. Mes amis, ceux qui ont payé un prix pour leur vie de disciple, ceux qui ont renoncé pour suivre le Seigneur, ceux qui ont fait des sacrifices, ceux qui ont payé de leur personne, ceux qui n'ont pas renié le Seigneur, ceux qui ont eu le courage de dire oui à Jésus et dire non à plein d'autres choses qui étaient des tentations, ceux qui ont pris des victoires au prix de sacrifices, comme je l'ai dit, de grands efforts et de renoncements, pensez-vous qu'ils ont la même destinée que ceux qui n'ont jamais rien fait du tout? Ce n'est pas vrai. Dieu est juste. Et c'est pourquoi, deuxième point, je vais y venir, le Seigneur prépare pour eux ses récompenses. Regardez le texte. Il y en a deux que je vais vous projeter et je termine par là aujourd'hui. Les récompenses sont pour les chrétiens. Regardons ce texte attentivement. Nous sommes toujours pleins de confiance, dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, 6. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Et maintenant vient le verset important. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal. Le tribunal, dans le texte original, signifie une estrade où se tient quelqu'un qui a autorité pour décider des choses. Le Seigneur nous parle de récompense. Le salut n'est pas une récompense. Le salut en Jésus, la vie éternelle, c'est une grâce, c'est un don gratuit. Ce n'est pas une récompense. La récompense, c'est selon les œuvres que nous avons faites sur terre. La récompense, c'est le juste mérite, alors que la grâce est un don gratuit. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvé par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça, c'est un texte que nous connaissons. Mes amis, ce ne sont pas juste nos œuvres. Vous pouvez faire plein d'œuvres pour Dieu pour chercher à avoir le maximum de récompenses plus tard. Et certains mouvements religieux le font. Ils font le maximum de choses pour hériter des récompenses. Mais ne nous trompons pas. C'est ce qui aura été fait dans le Seigneur, en Christ, dans sa volonté et dans l'obéissance à sa voix. C'est ça qui comptera. Et maintenant, via le deuxième texte, passons dans 1 Corinthiens 3, verset 11. « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Ça, c'est le salut gratuit, le fondement. Et maintenant, sur ce fondement, qu'est-ce qui se passe ? Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour, maintenant nous savons tous ce que c'est le jour du retour du Seigneur. Il se passe des choses sur la terre, mais il se passe aussi des choses dans le ciel. Parce qu'elle sera révélée dans le feu et le feu éprouvera ce que l'œuvre est, ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, parce que le fondement, il est bien là, le salut est là, et on ne perd pas son salut. Mais pour lui, il est sauvé comme au travers du feu. Et l'apôtre termine en disant qu'il faut veiller comment, de quelle manière nous devons construire. Donc le Seigneur nous attend, et nous nous réjouissons pour les récompenses, pour tous nos sacrifices, tous nos renoncements, tout ce que nous aurons engagé, d'une manière ou d'une autre, pour le Seigneur. Le Seigneur en a pris bonne note. Il n'oublie rien. Et toutes nos larmes, peut-être que nous avons essuyées ici-bas, nous serons définitivement essuyées là-haut. On n'y pensera plus. Seules les récompenses comptent. Les noces de l'agneau seront là. Le règne avec Christ est pour nous. C'est là notre destinée. Et je rappelle cette plus belle promesse que j'ai déjà dit. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On veut se lever juste pour terminer ce moment de prédication par une prière.